L'affaire Le Couvieur, mort tragique en Bretagne. Les enquêteurs émettent quelques réserves sur ces détails. Après avoir entendu les faits du point de vue de l'un des exécutants, ils veulent se confronter aux paroles des autres responsables. Ils sont arrêtés les uns après les autres. La seconde personne à être placée en garde à vue est Guénolé Madé. Le jeune homme se dit surpris d'apprendre qu'Anne-Marie est morte. Il dit ne pas connaître cette clause du contrat. Pour lui, il s'agissait d'un simple cambriolage. Recruté par le CERF, c'est un jeune chômeur de 26 ans. La perspective de recevoir une enveloppe de 10 000 euros était intéressante au vu de sa situation. Quoi qu'il en soit, sa complicité de meurtre lui vaut une détention provisoire immédiate. Les gendarmes essayent d'obtenir l'identité du fameux Loïc. Ils ne connaissent que son métier. La tâche est simple. Il suffit d'inspecter les derniers appels reçus sur le téléphone de Wenceslas Le Serre. L'homme à la tête de l'opération, le commanditaire du meurtre, s'appelle Loïc Duguet. Âgé de 42 ans, il est jardinier pour des particuliers. En garde à vue, il refuse de donner le nom de son employeur. Qu'à cela ne tienne, les gendarmes ne mettent pas longtemps à le découvrir. Duguet travaille pour Jean-Jacques et Josiane Le Couvieur. Jean-Jacques est l'un des fils d'Eugène et sa conjointe, la belle-fille d'Eugène et Anne-Marie. Les enquêteurs commencent à comprendre le plan machiavélique qui a été ourdi par les suspects. Le lendemain matin à l'aube, ils interpellent le couple, le fils d'Eugène et la belle-fille. Pour faciliter l'interrogatoire, ils sont tous deux placés dans des salles différentes. Chacun, de son côté, fait mine de ne pas comprendre ce qu'il se passe. Les enquêteurs les confrontent aux nouveaux aveux du jardinier. Lui vient déjà de passer toute la nuit dernière en cellule. Il a avoué avoir recruté Le Serre pour tuer Anne-Marie, tout simplement parce qu'on lui avait demandé de le faire. Parce que Josiane Le Couvieur, nom de jeune fille si danaire, a exigé de lui qu'il tue sa belle-mère. Il voulait trafiquer les freins de la voiture pour la faire périr dans un accident, mais finalement, il n'a pas eu le courage. Alors, il a recruté une connaissance, Wenceslas Le Serre, pour qu'il fasse le travail à sa place. Loïc Duguet ajoute qu'après avoir remis l'argent, il est allé rencontrer Josiane au domicile du couple Le Couvieur, à l'Armor-Plage. Cette dernière a refusé de prendre les bijoux de ses beaux-parents. Le jardinier les a enterrés dans le jardin de la propriété. Les gendarmes placent Josiane Le Couvieur en détention provisoire et demandent à Jean-Jacques de les accompagner à son domicile. Les enquêteurs creusent dans le jardin, à l'endroit indiqué par Duguet, et trouvent les bijoux. Jean-Jacques est sidéré. Il jure ne pas avoir été mis au courant de toute cette histoire. Le fils d'Eugène est disculpé. Loïc Duguet et Josiane Sidaner étaient selon lui très proches. Interrogée de son côté, Josiane dit qu'elle n'avait nullement l'intention de faire tuer sa belle-mère. Elle voulait simplement simuler un cambriolage pour récupérer le testament. Selon elle, il existerait un document qui prouverait qu'Anne-Marie avait l'intention de déshériter ses deux beaux-fils et sa belle-fille. Elle ne supportait pas que cette femme ait jeté la discorde dans la famille. Très attachée à son compagnon Jean-Jacques, elle avait agi par amour, et nullement pour l'argent. Tout cela reste à prouver, selon les gendarmes. Entendue par Virginie Howey, la juge d'instruction de Lorient en charge de l'affaire, Josiane Le Couvieur est peu convaincante. La juge décide de la maintenir en détention pour complicité d'assassinat. Isabelle et Philippe Le Couvieur sont également interrogés. Pendant près de 3 heures, on les questionne sur les relations familiales. Le couple ne connaît pas spécialement le jardinier de Josiane. En parlant de sa belle-sœur, Philippe ne peut pas l'imaginer commanditer un tel acte. C'est une catholique pratiquante, une personnalité bienveillante et estimée dans sa ville. Elle apporte son aide aux plus démunis et va jusqu'à financer la cantine des enfants des familles les plus défavorisées. Le 14 avril 2009, Wenceslas Le Serre et Guénolé Madé sont mis en examen pour assassinat, séquestration et vol avec violence. Loïc Duguet et Josiane Le Couvieur sont quant à eux accusés de complicité d'assassinat. Qu'importe le degré de culpabilité, compte tenu de la violence des faits, ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Un expert psychiatre rencontre Josiane Le Couvieur en prison. Il la trouve perdue, ne trouvant pas sa place dans la famille. Ce sentiment de solitude a fait naître chez elle une volonté de rendre justice, mais de la pire manière qui soit. Durant toute la durée de l'instruction, les autres complices changent leur version des faits. Le jardinier, Loïc Duguet, qui avait avoué avoir accepté une commande d'assassinat, finit par parler d'un vrai cambriolage qui aurait mal tourné. Un revirement d'aveu incompréhensible pour les enquêteurs, mais parfaitement explicable selon son avocat, maître Sébastien Bonneau. Le 14 avril, lorsqu'il est passé aux aveux, il s'était entretenu avec Jean-Pierre Picat, procureur de Lorient. Lorsqu'en mai, il revient sur ses paroles, il semble plus honnête que jamais. Le Serre et Guénolé ne parlent plus non plus d'assassinat. Au cours de l'instruction et en attendant le procès, la famille Lecouviour est divisée. Eugène et sa fille Catherine sont défendus par le même avocat, maître Boédec. Selon lui, les deux hommes n'ont pas essayé de prendre le fameux document qu'ils étaient venus chercher. Philippe et Jean-Jacques ont choisi d'être représentés par un autre avocat, maître Peignard. Le procès, qui doit démarrer en mai 2012, verra donc s'affronter deux clans. Nous sommes le mardi 22 mai 2012. Le procès s'ouvre à la cour d'assises du Morbihan, à Vannes. Durant les deux semaines que vont durer le procès, les quatre complices et leurs avocats évoquent un cambriolage qui a mal tourné. Les avocats des parties civiles tentent de démontrer le contraire. Josiane Sidaner est représentée par maître Thierry Fillon. Ce dernier explique que personne ne peut affirmer que sa cliente avait bien l'intention de tuer Anne-Marie. Il n'existe aucune preuve matérielle, aucun aveu. Maître Éric Dupont-Moretti, le représentant des enfants de la victime, affirme que la seule manière qu'avaient les enfants de Gênes de récupérer leur héritage était qu'Annette meure. La question est également de savoir pourquoi Wenceslas Le Serre et Loïc Duguet ont commis ce cambriolage en présence du couple. La réponse de Josiane est simple. Elle ignorait que ses beaux-parents étaient présents. Quant à savoir pourquoi ces deux complices ont pris avec eux du scotch et du ruban adhésif, la cour n'obtient aucune réponse convaincante. Lorsque Gênes Lecouviour est appelé à la barre, c'est l'occasion pour le vieil homme de 93 ans d'exprimer son amour profond pour sa défunte femme. Il évoque avec émotion les dernières paroles qu'elle lui a adressées avant de s'endormir. Tous deux se sont rappelés leur bonheur mutuel. Eugène s'avoue déconcerté par le comportement de ses enfants. Il souligne n'avoir jamais eu l'intention de les léser financièrement, trouvant tout aussi inexplicable leur acharnement envers Anne-Marie. Son mariage était basé sur l'amour et non sur des motivations financières. Il rappelle les dettes importantes accumulées en 1981 à la suite de problèmes dans son entreprise. Plus tard, un ami d'Eugène révèle que celui-ci avait prévu une succession avec une part de 30% destinée à assurer à sa conjointe une fin de vie confortable. Les trois enfants Lecouviour devant quant à eux se partager 70% de l'héritage paternel. Ils n'étaient donc pas du tout lésés dans la future répartition de l'héritage. Le samedi 2 juin 2012, la cour d'assises du Morbihan rend son verdict après 7 heures de délibéré. Les quatre accusés écopent de peine de 8 à 18 ans de réclusion criminelle. Contrairement à la thèse de l'assassinat, les juges retiennent celle du cambriolage qui a mal tourné, soutenue par les accusés. Josiane Lecouviour est condamnée à 15 ans de prison pour avoir ordonné le cambriolage entraînant la mort d'Annette Lecouviour. Les exécutants, Wenceslas Le Serre et Guénolé Madé, écopent respectivement de 18 et 15 ans d'emprisonnement, tandis que l'intermédiaire, Loïc Duguet, est condamné à 8 ans. Tous sont écroués après l'audience. Josiane est envoyée à la prison pour femmes de Rennes, Wenceslas à la maison d'arrêt de Lorient-Plomeur et Loïc Duguet et Guénolé Madé à la maison d'arrêt de Vannes. Moins d'un an plus tard, l'affaire Lecouviour est rejugée en appel à Rennes. Les quatre accusés admettent leur implication dans le cambriolage visant à récupérer des documents liés à l'héritage du patriarche. Toutefois, ils persistent à nier toute préméditation meurtrière. Loïc Duguet dit regretter avoir facilité la rencontre entre Josiane Lecouviour et les cambrioleurs. Quant à Wenceslas Le Serre et Guénolé Madé, tous deux se rejettent la faute de la pose du bâillon. Pour les parties civiles, l'intention de tuer demeure indiscutable. Malgré de nouveaux débats, les jurés rennais ont à nouveau refusé la condamnation pour assassinat, par manque de preuves matérielles décisives. Les quatre accusés sont de nouveau condamnés pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais cette fois-ci, la peine est plus lourde. Josiane Sidaner Lecouviour est condamnée à 16 ans de réclusion criminelle, contre 15 ans précédemment. Wenceslas Le Serre voit sa peine passer à 20 ans au lieu de 18, et Loïc Duguet à 9 ans au lieu de 8. Seul Guénolé Madé a eu sa peine confirmée. À l'issue de cette affaire, les enfants d'Anne-Marie attendent toujours une reconnaissance de culpabilité pour assassinat et complicité, estimant que les peines reçues par les accusés sont trop clémentes, compte tenu de la mort violente et préméditée, selon eux, de leur mère. Le 14 mai 2018, Eugène Lecouviour décède à l'âge de 99 ans. Il était resté veuf et inconsolable depuis la mort tragique de son épouse.